Ça va être une des derniers messages sur la série qu'on a commencé plusieurs semaines, qui parle du dépôt que le Seigneur a mis en nous par le Saint-Esprit, puis tout ce que ça devrait produire comme croissance. Quand que le Seigneur il a dit à sa brebis qui avait laissé un talent, il a dit, si t'aurais mis ça à la banque, ça l'aurait produit tout de suite des intérêts. Puis je crois que Dieu veut que notre vie produise quelque chose. Il veut pas qu'on soit comme une plante stérile puis qu'il n'y a rien dans notre vie, mais il y a déjà toute place en nous pour que ça produise quelque chose. On va continuer dans cette ligne de pensée-là, mais on va remettre le message entre ses mains. Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. On croit que tu es là, que tu es vivant, que tu es présent au milieu de nous. On t'a laissé toute la place, Seigneur, dans les champs, puis on te la laisse aussi dans le message, afin que tu rouvres nos cœurs, notre intelligence, tu nous fasses comprendre ce que tu as à nous montrer. Puis que tous ceux qui sont ici ce matin, et que tous ceux qui entendront le message par Internet, puissent être saisis de ta vision, de voir la vie comme toi tu veux qu'on la voie, Seigneur, qu'on y aille de l'avant, avec ce que tu nous as confié, qu'on puisse aller et porter du fruit, et que notre fruit demeure. Je te remercie de ce que tu vas faire mieux de nous, dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Hallelujah. Aujourd'hui, là, pour faire on va expliquer deux choses. La différence qu'il y a entre les dons et l'appel. Puis une fois que tu as compris c'est quoi que Dieu donne comme dépôt, comme don, quand tu te convertis, il t'a donné un dépôt en dedans de toi, il t'a donné des dons. Puis en plus, il y a des appels qu'il fait sur nos vies. Il veut qu'on ait une vision claire, c'est quoi son plan pour chacun de nous. Timothée, comme je l'ai déjà dit, puis je me répète un peu, Paul avait averti Timothée et dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » À quelque part, ça se peut qu'un chrétien s'endorme spirituellement. C'est pas qu'il a abandonné le Seigneur, mais il relâche. Il vit des moments difficiles, il vit des épreuves. Puis même, je sais que c'est prouvé aujourd'hui par les médecins que les hommes, alentour de l'âge de 50 ans, en arrivant dans la cinquantaine, il y a comme une petite mini-dépression qui s'installe. Ils appellent ça l'andropause. Ça peut même affecter ton rendement dans ta vie, ça, dans ton travail. Ça peut affecter ton rendement dans ta vie spirituelle. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes le Seigneur, mais c'est un relâchement. Puis on le sait que ça peut être possible, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on s'avertit les uns les autres, puis on essaie de s'encourager, puis de prier les uns pour les autres, pour qu'on se maintienne bouillant pour le Seigneur, qu'on se maintienne, comme là, Paul dit, « Je t'exhorte à ranimer. » C'est une exhortation que Paul faisait. « Ah ouais, let's go, Timothée. Ranime ce que Dieu a mis en toi par l'imposition des mains. Tu as reçu quelque chose, tu as un don. Dieu veut que tu mettes ton don au service de son œuvre. » Puis, il en a mis dans la vie de chaque croyant des dons. Tiens, amen à cela. Dans Matthieu 25, à partir du verset 14, je ne lis pas. Mais il a appelé ses serviteurs, on va leur lire ce plus tard. Il a appelé ses serviteurs, puis il leur a mis des dons. Quand on est arrivé à Jésus, il nous a déjà donné un ou des dons. Faut pas oublier qu'on a reçu quelque chose, puis notre devoir, c'est de veiller à ce que ça produise. Faut pas enterrer ça. Il faut mettre ça au service de Dieu, puis Dieu va bénir, puis il va nous utiliser, puis ça va se multiplier. Un passage qu'on va aller lire, c'est 1 Pierre 4:10. Puis là, j'aimerais ça que vous me suiviez plutôt que de lire votre Bible, parce que je vais la lire dans la version du Semeur. Puis elle a une petite tournure de phrase. Je pense qu'il y a 2 ou 3 passages aujourd'hui, je vais lire dans la version de la Bible du Semeur. Elle est plus comme arrondie, là, pour plus facile à comprendre, puis on dirait que ça vient chercher plus une idée enrichissante du texte. 1 Pierre 4:10, ça nous dit, « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Chacun de nous a reçu un don particulier. » Ça veut dire quoi, ça? Mais quand là, ça revient à la même chose que quand la parabole Matthieu 25, il appela ses serviteurs, puis donna 5 talents à un, 2 à l'autre, 1 à l'autre. Ça ne nous dit pas qu'un des serviteurs n'a rien donné du tout. Non, chaque serviteur, même le plus petit de la gang, en reçoit au moins un. Ça veut dire que Pierre revient à cette idée-là que Jésus avait enseignée. Chacun de nous a reçu de Dieu un don particulier. Tant qu'on y va pour éplucher le mot particulier, là, ça veut dire tu as un don bien précis que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose de spécial juste pour toi que Dieu veut voir dans ta vie se produire du fruit et tout ça. Au moins un don particulier. Vous avez des dons uniques, avec des capacités uniques que Dieu vous a confiées. Puis on va voir plus tard dans le reste du message, là, quand on conclut, on va conclure, vous allez dire, « Je t'ai appelé à Dieu, c'est un appel précieux, j'ai une tâche spécifique à faire dans ce monde aujourd'hui avec ce que Dieu m'a confié. » C'est extraordinaire. Mais on verra pas tout de suite c'est quoi les dons, les différentes facettes, mais on va voir qu'il y a une recette pour une croissance rapide. Vous nous dites, c'est quoi ça veut dire? Vous voulez grandir dans le Seigneur, puis grandir vite, puis d'avoir beaucoup de fruits dans votre vie. Mais il y a une recette qui nous a été donnée par Jésus dans Luc 16. Puis il faut tout de suite prendre conscience qu'on doit être fidèle avec ce que Dieu nous a confié. On l'entend souvent, cette phrase-là, ce verset-là, mais est-ce qu'on en comprend la portée, puis les conséquences? Luc 16, au verset 10, ça nous dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si donc vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Il y a d'autres passages dans les évangiles qui ramènent la même idée. D'être fidèle avec ce que Dieu nous confie, puis nous en confiera davantage. On veut grandir dans le Seigneur. On veut être utilisé dans le Seigneur. On veut que notre vie soit débordante de fruits. Mais il faut commencer par être fidèle avec le petit peu qu'a commencé à nous confier. Depuis notre conversion, il a déjà mis quelque chose en nous, un dépôt qu'il a mis là en attendant qu'il revienne nous chercher, puis il veut que ce dépôt-là porte du fruit. Tout ce qui s'attend de nous, c'est ce qu'on soit fidèle comme administrateur de ce qu'il nous a confié. Puis qu'est-ce qu'il dit? Si tu es fidèle dans les petites choses ou dans les moindres choses, il va t'en confier encore davantage. Mais le contraire est là aussi, dans ce verset-là, ça dit, si tu es infidèle, l'impitite, qui va te confier les plus grandes? Avant d'arriver à être un pasteur ou à être un grand missionnaire ou un évangéliste ou un apôtre ou un prophète, peu importe les ministères qu'on dit qu'on aimerait être, là, faut que tu sois fidèle avec les petites tâches qu'il t'a déjà confiées. Puis plus que tu vas être fidèle, plus qu'il va t'ouvrir des portes, plus qu'il va t'en confier d'autres, plus ton ministère va se développer, plus tu vas te sentir utilisé par la main de Dieu, plus tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie, puis plus que le Seigneur va déverser encore davantage de capacités, des dons, puis il va mettre des appels spécifiques dans ta vie. Il faut comprendre que Dieu il a déjà tout mis à ta disposition, ou à la disposition de chacun qui est de nous, là. Il a déjà tout mis ce qui était nécessaire pour vous grandissiez dans le Seigneur, puis que vous deveniez plein de fruits, puis que vous deveniez tous, chacun de vous, être capable d'entrer dans le ministère. Dans un ministère. Ça ne dit pas qu'on va avoir tous le même ministère, mais on a tout appelé à des tâches différentes. Dans Éphésiens 4, 11, ça nous dit que Dieu a déjà donné dans l'Église tout ce qui était nécessaire pour que tous les ministères se développent dans la vie de chacun des croyants. Il veut que chacun de vous soyez des hommes ou des femmes impliqués dans des ministères en train de travailler pour l'œuvre de Dieu. En Éphésiens 4, 11, ça nous dit « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, encore comme pasteurs et enseignants. Ça dit que c'est Dieu qui a déjà fait ces dons-là. Il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Puis ça, là, c'est un cadeau que Dieu a fait à l'Église, ces ministères-là. C'est des dons qu'il a donnés à certaines personnes pour un but. Est-ce que quelqu'un qui sait pour quel but que Dieu a mis des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs dans l'Église? À quoi que ça sert? Hein? Pour l'édification des saints. C'est qui ça, les saints? C'est-tu ceux qui sont morts, qui sont dans le ciel? La Bible a dit que c'est nous, les saints. Ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus, vous êtes les saints. Ça veut dire que Dieu a déjà fait des dons aux hommes, puis a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints. Pour que chacun de vous, qui avez passé par la sanctification du sang de Jésus, vous soyez perfectionnés. Pour que vous vous développiez dans vos dons, puis dans votre appel, puis que vous pouviez vous mettre au service de Dieu vous-même, puis commencer à vous impliquer dans son œuvre. Au verset 12 de ce passage-là, il a fait don de ses hommes. C'est des dons qu'il a donnés aux hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service. Dieu a donné ces dons-là, là, ces personnes-là, là, ces ministères-là, afin que vous deveniez toutes des aptes à servir, aptes à servir dans son service. Le mot « service », c'est « ministère ». Pour que chacun de vous puissiez être au service de Dieu dans les ministères que Dieu vous a appelés, bien, il a mis des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour votre perfectionnement, pour que vous soyez tous impliqués dans le ministère. Amen. C'est tout ça qu'on veut, s'impliquer dans l'œuvre de Dieu puis devenir plein de fruits. Puis là, ça dit, « Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. On va devenir à l'état d'adulte un stade où se manifeste toute la plénitude de Christ dans notre vie. » Ça, c'était une autre traduction que je lis, là, mais ça a beaucoup de sens. Tous les ministères, comme chaque fois vous entendez les prêches, les prédications, les enseignements, c'est dans le but de vous perfectionner pour que chacun de vous puissiez vous impliquer dans son œuvre, puis que tous ensemble qu'on devienne un solide assemblage, que tous ensemble on devienne unis dans la foi, on se laisse plus ébranler par les doutes puis par les attaques de l'ennemi ou les problèmes de cette vie, puis tous ensemble qu'on vive dans la plénitude de la communion avec l'Esprit-Saint. Puis il dit, de cette manière-là, là, si on recherche ça, là, si on veut vraiment l'atteindre, là, on ne sera plus des enfants ballottés. Ballottés comme dans une barque par des vagues, emportés ça et là de toutes sortes d'enseignements puis de faussetés que les hommes habiles y entraînent les autres dans l'erreur. Il y a plein de gens aujourd'hui qui enseignent des faussetés pour entraîner le monde dans l'erreur. Mais le fait que vous allez vous perfectionner, par exemple, à cause des enseignements que Dieu va donner, vous allez devenir plus ferme, puis vos dons que vous avez reçus, vous allez rentrer dans vos ministères, dans vos services que Dieu vous a appelés, chacun de vous, avec les dons qu'il a déjà déposés en vous. Amen. Il est important de comprendre les dons qu'on a reçus, et aussi de comprendre qu'il y en a d'autres dons qu'on peut aspirer. Parce que si vous dites, oh, mais moi j'ai reçu un talent quand je me suis converti, j'en ai assez. J'en veux pas plus. Bien, si vous en aspirez pas à plus, j'en aurai pas plus non plus. Parce que la Bible a dit aspirez aux dons. Là, dans le passage que ça nous parle de ça, là, c'est dans 1 Corinthiens 12, 28. Dieu nous parle dans ce passage-là qu'il y a déjà plein de dons qui sont mis là. On va le lire. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, le don de secourir, le don de gouverner, le don de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous parlent-ils... interprète-t-il? Si on répond à cette question-là, non, c'est pas tous qui sont arrivés à tous ces ministères et ces dons-là. Mais ça nous dit au verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Comme je l'ai déjà dit, tu pars un aspirateur, allonge pas d'aspirer. Attire, 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 à moins qu'elle soit bloquée, là, attire. Ça se peut que des fois que notre désir d'aspirer y est bloqué. Notre filtre est rendu bloqué. Notre sac est plein. On n'a plus de goût. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais changeons notre filtre, puis changeons de sac, puis on va se mettre à aspirer. Des fois, des affaires dans notre vie qui nous bloquent, puis il faut prendre la décision à un moment donné, « Wow, là, je vais enlever ce qui me bloque, afin que je puisse aspirer à tout ce que Dieu a me donné. » Parce que Dieu veut me donner encore davantage de ce que j'ai reçu. C'est le fun d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'est le fun d'avoir reçu un don. Quand tu réalises ton don ou ta capacité que tu as, puis tu le mets au service de Dieu, c'est le fun. Mais Dieu veut t'en amener à en avoir deux, à en avoir trois, à en avoir quatre. Il veut que tu aspires pour en avoir de plus en plus. Est-ce que tu es arrivé à avoir le don de guérison, le don des miracles, le don de prophétiser, le don de guérison, ou le don... T'es as-tu tout? Non. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Aspire à les voir. Recherche-les. Désire de tout ton cœur que Dieu t'en donne plus. Qu'est-ce que tu vas t'arriver? Si tu es fidèle à ce qu'il t'a déjà mis, il va t'en donner plus, parce que c'est le désir de Dieu que t'en aies plus. Celui qui en avait reçu cinq, le serviteur, il en avait reçu cinq, t'as rendu à combien à la fin de sa vie? 10. Celui qui en avait reçu deux, t'as rendu à combien à la fin de sa vie? 4. Celui qui en avait eu un, comment est-ce qu'il était rendu à la fin de sa vie? Non, il y avait un. Il restait à un, mais ils ont enlevé. C'est ça que ça dit. C'est que si tu pars à un et t'enterres ta vie spirituelle, tu peux vivre dans ce monde juste ta vie naturelle, ta vie normale que tu aurais vécue pareil sans Jésus. Comme tu peux te dire, je vais vivre avec le Seigneur, je vais rester en communion avec, je vais aspirer, puis je vais mettre mes dons au service de Dieu, je vais être fidèle dans les petites choses, puis il va m'en confier davantage. C'est sûr que ça va produire. Jésus a dit, si tu aurais mis ça à la banque, ça aurait produit de l'intérêt tout seul. Nos dons, nos capacités sont massées au service de Dieu. C'est clair que ça se développe parce que le Saint-Esprit va nous émonder pour qu'on porte encore plus de fruits. Amen. Nous sommes tous en croissance spirituelle. On est tous en train de continuer à grandir, même si tu es rendu à 90 ans. Tu es encore en train de grandir dans le Seigneur si tu ne te laisses pas aller. Parce que 2 Corinthiens 4, 16, Paul nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lorsque même notre âme extérieure se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Tu peux être en train de vieillir, puis ton corps il est malade, puis il est fatigué, il est usé, tu as de la misère. Ton âme extérieure, il se détruit, mais ton âme intérieure continue à se renouveler, puis à grandir dans le Seigneur, puis à grandir dans la connaissance de Dieu, puis à être capable de t'affirmer en public, puis de dire les choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Faut pas se laisser aller parce qu'on vieillit. On l'a chanté tantôt, même si ton corps y est usé, puis tu t'as perdu force et santé, même si tu fléchis sous la douleur, sache que Jésus y est fidèle et te gardera sous son aile. Abandonne tes fardeaux au pied de ton sauveur. Remets tout. Ton corps se détruit comme un vieux char, que les morceaux tombent dans la rue, c'est pas grave, tu le remets des mains du Seigneur, puis tu te rends pareil au point B. C'est que l'intérieur, elle se détruit pas. Elle reste motivée à vouloir grandir dans le Seigneur. L'important, quand tu as des dons dans le Seigneur, tu veux grandir, tu veux les faire fructifier, tes dons, là, hein? Mais faut pas que tu conçoives de l'orgueil face à un autre. Faut pas que tu te compares au point de penser meilleur que les autres. Parce que dans 1 Corinthiens 4:6, ça dit que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme tu ne l'avais pas reçu? Faut jamais oublier que les dons qu'on a reçus, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. C'est pas parce que tu étais meilleur que tu as reçu ce cadeau-là. Pas parce que tu étais plus fin, plus smart, plus beau, plus ci, plus ça, non. Dieu donne ses cadeaux comme qu'il a décidé de te les donner. C'est lui qui décide, c'est le Saint-Esprit qui distribue ses dons selon sa volonté. C'est ça que ça dit dans Corinthiens. Fait que t'as pas d'affaire à te penser meilleur qu'un autre parce que t'as parlé en langue dimanche ou parce que t'as eu une prophétie. Une prophétie, si tu écoutes le Seigneur puis le Seigneur te donne un message à dire, tu l'as dit, ça l'encourage les frères et sœurs, mais t'es pas parce que t'es meilleur. parce que le Saint-Esprit a décidé de t'utiliser, point. La gloire revient à qui? Elle revient à Dieu. Puis si on commence à concevoir de l'orgueil en contre là, moi je suis ci, moi je fais ça, puis là, qu'est-ce qui arrive? Tu vas éteindre l'action de l'Esprit dans ta vie parce que tu ne rends pas la gloire à Dieu. Tu veux grandir, tu veux en avoir des dons, sois fidèle à ce qu'il te confie. Tu peux t'avoir laissé aller parce que t'es fatigué, t'es brûlé, t'es dans l'andropause ou dans la ménopause. Dieu comprend ton état physique. Même si ton corps est en train de se détruire, sache que ton intérieur peut continuer à se renouveler, puis être rempli du Saint-Esprit, puis être utilisé, avoir un cœur à vouloir être utilisé, puis à vouloir en vivre plus de la communion puis de la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Il y a une attitude qui doit comme nous être en chacun de nous, là, pour réaliser, dans Ecclésiaste 9:10, ça dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Tu te demandes c'est quoi le don ou la capacité, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ça, c'est une bonne attitude. Tu as l'intention de tout t'impliquer dans tout ce que tu es capable de faire. Tu as la force de le faire, ta capacité, au moins d'attendre d'avoir un diplôme d'université pour commencer à mettre les acétates. Tu es capable de mettre les acétates, faire chanter le monde, tu es en train de mettre tes dons au service de Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre des diplômes pour faire des tâches. Impliquons-nous, offrons-nous s'il y a des tâches qu'on est capable de faire. C'est des dons que Dieu t'a donnés, puis Dieu veut que tu t'impliques. C'est pas juste au pasteur à tout faire dans l'Église. Pas juste au pasteur à tout faire. C'est pas juste rien qu'à une ou deux personnes qui sont les élites de l'Église qui vont tout faire. Tout le monde dans le corps, dans l'Église, a une tâche d'affaires dans l'Église. Que ce soit de passer le balai, placer les chaises, s'occuper des acétates, faire de la musique, chanter, laver les toilettes. C'est toutes des tâches que n'importe qui sont capables de faire. Puis Dieu, il regarde si on est fidèle d'un petit. Quand on commence à être fidèle, oups, il va nous augmenter nos capacités, puis vous allez être encore plus de choses à être capable de faire. Ça, je l'ai vécu par expérience. Parce que si je ramène la parole aujourd'hui, là, si Dieu permet que je sois capable de vous expliquer tout ça, je n'étais pas de même quand je me suis converti. C'est un travail que le Seigneur a fait avec le temps. Puis là, il forme, il fortifie, il révèle des idées, il te montre des choses, après ça, il t'utilise. Chacun de vous, ça peut être la même chose. Pour aller évangéliser tous les ceux qui sont dans votre vie, que vous rencontrez sur votre chemin, Dieu veut vous utiliser, vous êtes la personne spécifique que Dieu veut utiliser dans ces moments-là. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais moi, je ne suis pas un appelé à rien, moi. » Il y en a des fois qui ont cette idée-là. Ils se sentent trop petits en dedans pour dire, « Moi, je ne suis pas appelé à rien. Dieu ne m'a pas appelé. » On va voir une série de peut-être une dizaine de versets. Vous n'avez pas besoin de les lire. Je vais juste vous donner référence. Écrivez-les, allez les lire chez vous. Puis j'ai juste mis comme des phrases, là, des versets, que le mot « appelé ». Ça s'adresse aux croyants. Quand vous allez avoir fini de tout écouter ces versets-là, « Wow! » Je t'ai appelé. Vous allez vous reconnaître dans tout ça. Dans 1 Pierre 2:9, il dit, on a été appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire que quand Jésus est allé te chercher pour t'expliquer, pour que tu comprennes que Jésus c'est le Sauveur, puis que tu étais dans tes péchés, tu étais mort dans tes péchés, puis que tu t'en allais dans la perdition éternelle qui est l'étang ardent de feu et de soufre. Quand Jésus est arrivé à la porte de ton cœur, puis il t'a ouvert ton intelligence pour que tu comprennes, « Hey, Jésus est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. J'ai plus besoin d'y aller dans l'étang de feu pour payer pour mes péchés. Je peux recevoir son pardon gratuitement. » J'ai juste à l'accepter comme mon Sauveur puis mon Seigneur. Je me repens de ce que je vis dans une vie tout croche, puis je demande de me conduire, de me guider par son Saint-Esprit. Quand vous avez compris ça, le Seigneur est en train de vous appeler personnellement. Il dit, c'est son Saint-Esprit qui vous a convaincu, puis c'est son Saint-Esprit qui l'a fait comprendre, puis il est en train de vous appeler à passer des ténèbres puis rentrer dans son royaume, le royaume de la lumière. Vous êtes déjà des appelés. 1 Corinthiens 1:9, il nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Vous avez tous été des appelés. Appelés à quoi dans ce verset-là? À marcher en communion avec Jésus. C'est un appel qu'a dit Pierre. Je t'appelle. Il ne nous a pas dit en ces mots-là, mais c'est le résultat qui est arrivé à ça. Pierre, je t'appelle à être en communion avec mon Fils Jésus. Comprends le chemin. Comprends le plan. Ouvre tes yeux. Je t'ouvre les yeux. Je t'enseigne maintenant. Accepte Jésus comme ton Seigneur, comme ton Maître. Je t'appelle à marcher en communion avec mon Fils. C'est un appel personnel qu'il a fait à chacun de nous pour qu'on dise, oui Seigneur, je le crois, puis je marche en contact avec toi. On est tous des appelés à marcher en communion avec Jésus. 1 Corinthiens 1:2, on a été appelés à être saints. C'est encore un appel que Dieu a fait dans notre vie. Il nous a appelés, Richard, je t'appelle à marcher dans la sainteté. Le mot saint veut dire consacré. À ce que tu puisses marcher consacré en communion avec mon Fils, je t'appelle à être consacré, à vivre ta vie pour moi, pour me glorifier, pour me servir, pour marcher en communion avec moi. 1 Thessaloniciens 4:7, il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est encore un appel qu'il a fait. Il ne nous a pas appelés à ce qu'on marche dans une vie de corruption, puis de dire de la pourriture par notre bouche, puis de faire des choses pourries dans notre vie. Il nous a appelés à se sanctifier. Ça veut dire, je me consacre de plus en plus. Tous les domaines de ma vie qui ne plaisent pas à Dieu, je les mets au service de Dieu pour qu'il me délivre de ça, puis que je devienne de plus en plus avec une vie qui plaît au Seigneur. Je t'ai un appelé à me sanctifier. Vous êtes des appelés. Il vous a appelé chacun de vous autres. Il dit, mes brebis, je les connais, je les appelle par leur nom. Elles me suivent. Viens ici, je t'appelle à ça. C'est un appel particulier. Galates 5:13, il nous a appelés à la liberté. Il veut nous délivrer de nos péchés, de son pouvoir, des racines de l'iniquité dans notre vie. Tu sais, moi, je vous donner un petit exemple. Tu prends un plant de pissenlit dans un gazon, là, même si tu coupes la tête du pissenlit puis tu poses la tondeuse dessus, là, le pissenlit, tant que tu n'enlèves pas les racines, il repousse. Mais nos péchés, c'est la même affaire. Tant que Dieu n'enlève pas la racine de nos péchés, les péchés reviennent tout seuls. Il faut que Dieu te libère, Dieu te délivre, Dieu opère qui arrache la racine de tes péchés. Puis Dieu ne nous a pas appelés à toutes sortes à rester dans notre position qu'on était avant. Il nous a appelés à la liberté. Libérés du péché et de son pouvoir. Il y a un chant qui chante ça. Puis la force est en Christ. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ. Il nous a appelés, chacun de nous, un appel particulier à être libre. Éphésiens 4:4, il nous a appelés à une seule espérance. Il veut qu'on ait la même espérance, laquelle Jésus revient bientôt. Ils vont venir chercher ses enfants. Tous ceux qui ont reçu le dépôt, puis qui sont dans une vie en train de vivre ce que Dieu a donné. Attendez-les, il s'en revient dans pas long. Il s'en revient, puis il va venir nous chercher. L'espérance de la vie éternelle, du retour de Jésus, la résurrection de notre corps, on va être délivré définitivement de ce corps de péché-là, puis on va vivre dans la liberté et la gloire d'un enfant de Dieu, ressuscité. Hallelujah! Colossiens 3:15 nous dit qu'on est appelé pour former un seul corps. On a un appel précis, chacun de nous, qui dit, viens ici, je veux que tu fasses partie de mon corps. On a tous reçu cet appel-là. Fais un avec mon corps. Recherche la communion avec les autres frères et sœurs. Va à l'église. Va à l'église, là, c'est parce que le corps de Jésus se rassemble, là, ce dimanche. Le dimanche, le mercredi ou dans d'autres journées. Le corps se rassemble. Toi, t'es pas le corps à toi tout seul. Toi, t'es juste une partie de ce corps-là. T'es un organe, t'es un membre de ce corps-là. Mais le corps, il faut qu'il se réunisse. C'est quand ils se réunissent, mais c'est quand les chrétiens se voient ensemble. Là, présentement, on est dimanche, on est tous rassemblés. vous faites partie du corps. Vous avez tous été appelés pour former un seul corps. C'est quel corps qu'on forme? On forme le corps de Jésus sur la terre. C'est comme si l'Église au complet est une continuité de la vie de Jésus sur la terre. C'est comme Jésus est encore sur la terre. Il y a d'autres choses qu'on est appelés. Puis des fois, ça ne fait pas plaisir des ententes, mais on n'a pas le choix. Puis ça va même nous faire comprendre certaines choses. Dans le passage d'1 Pierre 2, 21, ça nous dit, là, dans ce passage-là, il nous parle de souffrance. Puis ça dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Vous allez me dire, wow, comment se fait, je pourrais être appelé à souffrir. Mais Dieu, c'est dans son plan qu'on vive la même chose que ce que Jésus a vécu. Si on reçu Jésus, ils vont nous recevoir. Si on racheté Jésus, ils vont nous racheter. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Si mon persécuté vous persécuteront, voyez-vous, on a été appelés à prendre notre croix et à le suivre. Autrement dit, on est appelés à souffrir, parce que Jésus, il a souffert. Il s'est armé dans son idée, moi, je continue jusqu'au bout. Puis ça nous dit un autre passage que Jésus, même s'il était le Fils, il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. Jésus a appris à être obéissant malgré qu'il souffrait. Dans un autre passage, ça dit c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Jésus n'a pas souffert rien que sa croix. Toute sa vie, c'était une vie de souffrance. Il n'avait pas de maison à lui, il vivait comme... Il dit, les renards des tanières, les oiseaux du ciel ont le nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il vivait comme vagabond, errant. Il se promenait et évangélisait de ville en ville. C'était ça, sa vie. Puis la vie de souffrance, d'être un fardeau, tous les jours, il subissait la chaleur comme tout le monde. Il subissait la faim, la même chose que tout le monde. Mais en plus, tout le monde qui avait des problèmes venait à lui. Puis là, il passait des heures à prier pour les besoins de tout le monde. C'était un ministère de don de lui-même, puis qui engendrait des souffrances dans sa vie. Puis c'était pas facile. C'est sûr qu'on est content, on est heureux, on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli de la joie du Seigneur d'avoir les guérisons, les délivrances. Mais il y a quand même une peine ou une charge ou un fardeau à toujours être versé vers les problèmes de tout le monde. Puis c'est ce que Jésus a passé. Mais il dit, nous autres, les souffrances, on a aussi été à la place, là. Ça, c'est écrit dans 1 Pierre 2, 21. Un autre passage, 1 Pierre 3,9, qui dit, « Ne rendez pas le mal pour le mal ou un jeu pour un jeu. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. » On est appelés à bénir. Continuellement dans notre vie, il y en a qui font du mal, bénis-les. Qu'est-ce qui va arriver au bout? Afin d'hériter la bénédiction. Tu veux être béni de la part de Dieu, commence à bénir tous ceux qui te font du mal. Quelqu'un qui te traite d'un mauvais nom, que le Seigneur te bénisse. Au lieu de te revenger, en réalité, il n'y a pas de malédiction que les hommes font qui peuvent t'atteindre. Parce que Dieu dit aussi, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Puis un autre passage qui dit que les malédictions des gens ne peuvent pas nous atteindre parce qu'on est sous la bénédiction de Dieu. On a été racheté des malédictions. On n'est plus sous le précepte du monde. Même la loi de Moïse qui condamnait toute l'humanité, là, on n'est même plus sous la malédiction de la loi. On a été libérés, on est comme morts présentement. Physiquement, là, en position devant Dieu, on est tous des morts. On n'est plus sous l'effet des malédictions de nos ancêtres, ni sous la malédiction de la loi, ni sous la malédiction des gens. Mais il y a une chose, par exemple, que de notre bouche, ça soit une source de bénédiction pour bénir ceux qui nous font du mal. Bénissez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ça que Jésus a dit. Puis on était appelés à ça. C'est un appel particulier. Imaginez-vous qu'à rien que ce verset-là dans la Bible, puis Jésus dira, « Viens, je t'appelle à ce que tu bénisses le monde. » Personnellement, Dieu nous a appelés à bénir. 1 Thessaloniciens 2,12 nous dit, « On a été appelés à son royaume et à sa gloire. » Hallelujah! On est des appelés à rentrer à le voir, premièrement. Faut que tu naisses de nouveau pour voir le royaume. Faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume. Mais il nous a appelés pour son royaume. Puis en plus de vivre sa gloire. Parce qu'avant, on était privé de la gloire de Dieu. Quand t'es pécheur, t'es dans ta vie de péché, t'es privé de la gloire de Dieu. Mais quand tu nais de nouveau, il t'appelle à voir, puis à entrer dans son royaume, puis il t'appelle aussi à vivre sa gloire. Jésus, je l'ai redonné la gloire que tu m'as donnée. L'idée, c'est, Dieu veut déverser sa gloire dans vos vies. Puis pas juste la gloire présente, la gloire à venir, parce qu'éternellement, on va voir la gloire de Dieu, puis on va être dans sa présence. Puis on va le chanter, on va le célébrer, puis on va être heureux d'être là, puis on va être béni d'être là, de voir la gloire, la grandeur. Moi, quand je pense à gloire, puis quand je pense à comment essayer de fitter ça pour dire comprendre la grandeur de sa gloire, l'univers entier n'est pas assez grand pour contenir Dieu. Et même la planète Terre, qui a de l'aigro à notre vue, la planète Terre, c'est une poussière dans l'univers. Puis tout l'univers est dans le creux de sa main. Dans le creux, ça remplit même pas sa main, là. C'est juste dans le creux de l'univers. Tout est créé en lui. Tout subsiste par lui. Et vous pouvez vous imaginer la grandeur de ce Dieu-là, puis pas juste le monde physique, matériel qu'on voit présentement qui est en lui. Le monde invisible où il y a des milliards d'anges qui sont là, présents à l'intérieur de Dieu. Dieu est encore plus grand que le monde visible et le monde invisible. Mais qu'on voit Dieu de nos yeux, c'est pas pour rien que la Bible dit que tout genou fléchira. Le Dieu, on a de la misère à concevoir la grandeur et la puissance de ce Dieu-là. Puis c'est ce Dieu-là qu'on sert. Puis c'est ce Dieu-là qui nous a fait un appel particulier. Viens. Je t'appelle à, puis je t'appelle à, puis je t'appelle à, puis il y a plein des « je t'appelle à ». On en a vu plein, là, des passages avec « je t'appelle à », « on était appelé à ». Puis il y a un autre passage qui est encourageant dans Apocalypse 19:9 qui nous dit « et l'ange me dit, écrit, « heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, on a été appelés ». Viens ici, je t'invite aux noces de l'agneau. Wow! Vous êtes tous des appelés aux noces de l'agneau. Gloire à Dieu! Moi, ça me bénit au bout d'entendre ça. Là, si vous dites, oh, ben moi, je pense que je suis pas un appelé, moi, je suis pas appelé à rien, moi, dans l'Église, moi, Dieu m'a rien donné. Détrompez-vous, vous êtes appelés à plein d'affaires. Tout ça, je viens de vous dire, vous êtes appelés à son admirable lumière, vous êtes appelés à être en communion avec son Fils, vous êtes appelés à être saints, vous êtes appelés à vous sanctifier, vous êtes appelés à vivre en paix, vous êtes appelés à la liberté, vous êtes appelés à une seule espérance, vous êtes appelés à former un seul corps, vous êtes appelés aux souffrances, vous êtes appelés à bénir, vous êtes appelés à son royaume et à sa gloire, vous êtes appelés afin que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes appelés au festin et aux noces de l'agneau. Là, je vais vous expliquer comment ça marche pour les tâches. Comment fonctionne l'appel pour des tâches? Parce qu'il y a des appels, là, pour la vie chrétienne en général, c'est ça. Mais il y a aussi une place dans la Bible qui parle que Dieu fait des appels encore à des personnes. Viens ici, je t'appelle à une tâche précise. Comme Jésus a fait dans Matthieu 25, comme on a dit tantôt, on voulait juste le verset 14. Il en sera de même comme d'un homme qui partant pour un voyage, y appela ses serviteurs. On a tous été appelés à être des serviteurs de Jésus. Il leur remit ses biens. C'est ça que ça dit. Quand Jésus nous a appelés à rentrer dans le royaume de Dieu, là, il nous a appelés au salut. Il nous a appelés. Jésus a dit, viens ici, je t'appelle. Puis nous autres, on a dit, me voici Seigneur, je crois, puis ainsi de suite. Puis il nous a remis ses biens. On est déjà dans l'appel d'être fidèle, à mettre en pratique, à être fidèle dans ce que Dieu nous a demandé dans les petites choses, dans ce qu'il nous a confié à partir du début. Mais après ça, il y a des appels pour des ministères, des tâches précises. Acte 13:2 nous dit, ça nous parle de l'apôtre Paul et Barnabas, Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle que je les ai appelés. » Oups! L'apôtre Paul puis Barnabas, ils ont été appelés. Dieu leur a dit, à un moment précis, « Venez ici, là, j'ai une job pour vous autres. » Parce qu'il était fidèle, il était déjà un apôtre, Paul. Puis Barnabas, c'était déjà des apôtres, c'était déjà des gens utilisés par le Seigneur. Mais des fois, ça peut arriver qu'en plus d'être appelé à tout ce qui fait partie du royaume, qu'il t'appelle pour des jobs précis. Mais si tu n'as pas encore été appelé comme Paul, là, pour être d'un job précis, ça ne veut pas dire que tu n'as pas appelé à rien d'autre. Tous les autres versets s'appliquent, que tu as encore un appelé à servir Dieu et à mettre au service des autres le don que tu as reçu. C'est vrai que des pasteurs qui ont été appelés dans le ministère, Dieu les a appelés. Là, ils ont été à l'école biblique, ou bien ils ont été directement à travailler dans l'œuvre de l'évangélisation, ou bien dans l'œuvre de s'occuper d'une église. Puis ils répondent à l'appel. Ils sentent l'appel, ils vivent l'appel, ils sentent que c'est Dieu qui leur a dit « Occupe-toi de faire une église, mettons, ici à Saint-Rémy. » Fait qu'ils répondent à l'appel. Mais ça se peut que tu ne l'aies pas cet appel-là, puis que Dieu, il ne faut pas oublier qu'il t'a déjà appelé à plein d'affaires. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Vous êtes déjà tous des appelés à tout ce que je vous ai dit tantôt. Comment doit-on considérer l'appel que Dieu nous donne? Romains 12, 7 nous dit que celui qui est appelé au ministère, il s'attache à son ministère. Que celui qui est au naissant est appelé à enseigner, qui s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte, qui s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne, mais qui le fasse avec libéralité. Que celui qui préside, le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde, le fasse avec joie. Ça veut dire, peu importe ce que Dieu t'a appelé selon les dons qu'il t'a donnés, ce qu'il veut, c'est que tu t'impliques au maximum, tu t'attaches à ce qu'il t'a donné, puis tu t'impliques au maximum dans ce qu'il t'a donné. Il t'a appelé à être un enseignant. Attache-toi à ça. Il t'a appelé à ça. Donne-toi tout entier pour être enseignant. Il t'a appelé à exhorter. Attache-toi à l'exhortation, puis vis pour ça. Attache-toi à selon les appels précises. Ça, c'est à part de tous les autres dons que tu avais donnés. Là, on parle d'appels. Les appels précises de plus. Là, ce que je vais vous parler, là, à part des dons et des appels, bon, vous me faire comprendre qu'il est important d'avoir une vision claire de comment ça marche, parce que tu peux avoir reçu des dons, tu peux avoir reçu un appel, puis tu peux avoir perdu de vue la vision. Qu'est-ce qui arrive? Tu ne sais plus que c'est faire. Pour une raison ou pour une autre, tu as perdu de vue c'est à quoi ton appel puis tes dons, puis là tu t'impliques plus. Peu importe la raison, peut-être pas à cause de la maladie, peut-être que tu as vécu une dépression, peut-être que tu es, comme je disais tantôt, en ménopause ou en andropause, puis là, tu es comme un reviré à l'envers. Peut-être que tu étais découragé, déçu, blessé, puis que là, tu as perdu la vision de l'appel puis des dons que Dieu t'avait confiés, puis là, tu n'es plus impliqué dans son œuvre. J'ai lu dans un petit article, dans une petite chose que je reçois tous les jours, un message biblique que je reçois tous les jours par email. Ça disait, puis là je l'ai modifié un peu selon ce que je vais apporter ce matin. L'absence de vision, c'est un des plus grands fléaux qui frappe l'Église. Ça, on appelle ça une crise d'identité. Tu peux avoir une crise d'identité spirituellement parlant. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu es spirituellement parlant. Tu ne sais plus que tu es un appelé. T'es appelé à te sanctifier, t'es appelé à bénir, t'es appelé à former un seul corps, t'es appelé à une espérante, t'es appelé aux noces de l'agneau, t'es appelé que tu sens plus que t'es un appelé, t'as perdu de vue la vision. Tu comprends plus, t'as plus, tu sais plus où te garocher, t'as perdu de vue, t'as plus une vision claire de l'appel puis du service que t'as à faire pour Dieu. Ça, c'est un gros problème dans l'Église présentement. Le monde perd de vue la vision. Peu importe la raison, là, le monde se cherche. Le monde cherche dans le monde. Le monde cherche à des nouvelles méthodes pour faire entrer le monde dans l'Église. Ils cherchent à se fier ces statistiques que, oh, ben, si tu fais ça, tu vas avoir telle statistique de telle réussite. Puis là, on sait plus où se garocher plutôt que de revenir à la vision qui est écrite dans la parole de Dieu, de prier. Il n'y a pas 50 moyens pour obtenir les bénédictions de Dieu. Tu te retournes à la prière, tu retournes à la parole de Dieu. Il y a un verset qui dit, « À la loi et au témoignage, si le peuple ne parle pas comme ça, point d'aurore pour le peuple. » Tu n'as pas l'idée de revenir à la Bible, de revenir à la source, il n'y aura pas de réveil. Si tu cherches des solutions dans des théories d'hommes, puis des résultats d'hommes, puis des statistiques d'hommes, ça fera pas grossir ton église. Même si tu dis, on va essayer de moins prêcher la sanctification, on va laisser faire le monde s'ils sont dans l'adultère, ou s'ils sont dans des gays, ou s'ils sont voleurs, menteurs. On va les laisser rentrer à l'église, puis on va les laisser se croire des chrétiens, puis on n'interviendra plus dans la vie de personne pour pousser la sanctification, puis de croire que Dieu nous demande la repentance dans des péchés. Puis quand tu te repens devant Dieu, là, Dieu peut opérer d'arracher les racines de tes péchés. Mais ça existe dans des églises présentement. Ils sont en train de délaisser la parole. Ils abandonnent la sainte doctrine pour se tourner vers... En réalité, c'est qui ces vers-là? C'est d'autres idées qui ne viennent pas de la Bible, qu'on pense que ça va faire grossir les églises. C'est pas en quittant la Bible et en quittant la prière que ça va grossir, c'est en revenant à ce qui est écrit là. Mais si on perd cette vision-là, que les premiers disciples, c'est les hommes de prière, les hommes attachés à la parole de Dieu, des gens qui se sont repentis de leurs péchés. Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'était le message de Jésus, le message de Jean-Baptiste, le message des apôtres. Puis j'ai une étude, si un jour vous voulez la faire, là, je vais... La repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous revenez à ce qu'est la vision biblique du Nouveau Testament. Là, on va voir la puissance de Dieu dans l'œuvre, dans l'Église. Là, c'est pour vous dire qu'il y a une perte de vision, là, puis il faut revenir à la vision biblique. On n'est pas sur la terre par hasard. Dieu nous a créés dans un but précis. Là, je l'ai dit général. Dieu t'a créé dans un but précis. Dieu t'a créé dans un but précis. Là, je peux le dire à chacun de vous autres ici ce matin, puis me le dire à moi. Dieu m'a créé pour un but précis. C'est pas un hasard qu'on est ici, là. Puis on va le découvrir, ce but précis-là, au fur et à mesure qu'on va croître dans la connaissance de la parole de Dieu. Plus qu'on va être versé dans la parole, puis plus qu'on va aller la méditer et l'appliquer dans notre vie, plus qu'on va découvrir notre but, pourquoi qu'on est ici. On n'est pas né par accident. Vous êtes pas né par accident. Même si ta conception, mettons, tes parents, ils ont dit, oh, on a essayé de faire exprès pour que je ne sais pas être enceinte, puis là, il est arrivé une bad luck, puis ma femme est tombée enceinte, comme ça serait un accident, là. Puis là, toi, tu vis au monde suite à cet assassinat-là, puis tes parents essayaient de te dire, t'es un accident, on veut pas t'avoir, on voulait pas te tuer, puis là, t'es pas né par accident. Dieu, il contrôlait ton existence. Il a permis que ça arrive parce qu'il te voulait là. Dieu, il a une tâche précise avec ta vie. Dieu a quelque chose de précis à faire avec toi. Sens-toi pas rejeté par le monde. Sens-toi accepté et appelé de Dieu. Puis t'es une tâche précise pour le plan de Dieu. Ta vie spirituelle, ta naissance spirituelle que tu as vécue, c'est pas un accident non plus. Dieu t'a appelé, t'a répondu, t'es né de nouveau, puis tu fais partie de son plan, puis il y a une job pour toi. Même si tes parents ne vous attendaient pas, Dieu, lui, il vous voulait, puis c'est arrangé que vous soyez sur terre présentement, à cette époque-là, avec des dons et des capacités précises pour faire un job précis, dans le moment précis où ce qu'on est présentement. Et tiens, amen à cela. Vous êtes là parce que Dieu l'a voulu que vous soyez là. Puis vous êtes sauvés, pas par hasard, puis sans aucun but. Vous avez un but précis, une tâche précise à faire dans son Église, maintenant, avec les dons et les capacités que je vous ai données. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour survivre, pour souffrir, puis vivre continuellement dans la misère. Il vous a équipé de dons, de talents, puis un appel précis pour le glorifier, puis le servir. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Même si on n'est pas grand-chose, on se dit qu'on n'est pas grand-chose. Au yeux de Dieu, on est une perle de prix. On est important pour lui. Alléluia. Il y a trois jours bien importants dans notre vie pour Dieu. Le jour que tu es venu au monde, c'est important pour Dieu. Il a permis que tu sois au monde exactement dans le bon timing pour son plan. Le jour de ta nouvelle naissance, quand tu as laissé rentrer le Saint-Esprit dans ta vie en te repentant, puis en te convertissant, puis en mettant ta foi que c'est Jésus qui te donnait le salut, c'était le deuxième jour le plus important. Et le troisième jour, très important pour Dieu, le jour où tu vas comprendre pourquoi tu es sur la terre, puis c'est quoi les dons qu'il t'a donnés, puis commencer à vivre pour lui, ça c'est encore très apprécié de la part de Dieu. Dieu, il est fier de voir ses brebis en train de s'impliquer dans son œuvre, puis de les voir qui sont œuvrés à la tâche. Puis il dit même, heureux le maître qui à son arrivée le trouvera faisant ainsi, est en train de s'impliquer dans son œuvre, en train de mettre ses dons et ses talents à son service. Dieu va nous établir sur tous ses biens. C'est ça que j'ai dit dans Matthieu 25. Alléluia, gloire à Dieu. Découragez-vous pas. Je vais vous revenir avec trois passages bien vite à Timothée. Là, vous allez comprendre, là je viens de vous expliquer, vous avez tous reçu des dons, vous avez tous reçu un appel, puis que là, il est clair d'avoir une vision claire, c'est quoi vos dons, c'est quoi votre appel, puis que Dieu veut que vous avanciez avec tout ça. Les trois passages, c'est Paul qui est en train de dire à Timothée, pour essayer de le secouer, pour lui dire, prends-toi en main, là. Réalise ce que tu as déjà reçu, puis remplis-toi avec tout ça. Puis là-dedans, il faut se retrouver pour que tout le monde ensemble, on dit, wow, si ça me parle à moi, moi tout, il faut que je me reprenne en main, comme Paul a essayé d'encourager Timothée. 1 Timothée 4, 12, 16, ça dit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et jusqu'à que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, puis tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est une belle exhortation que Paul est en train de dire à Timothée. Rapplique-toi à tout ce que tu as été appelé, puis tout ce que je t'ai enseigné, puis tout ce que tu as compris. Réimplique-toi, puis donne-toi tout entier, puis que tu vas avoir un progrès dans ta vie, puis tu vas te sauver toi-même, puis tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Le contraire de ça, laisse-toi aller, oublie tout, puis commence à prêcher n'importe quoi, tu vas te perdre toi-même, tu vas perdre ceux qui t'écoutent aussi. Puis moi, je crois qu'il faut se motiver à dire, hey, il faut se réveiller, il faut se réimpliquer, comme Paul a demandé à Timothée. Dans la deuxième lettre de Timothée, Paul parle encore la même chose à Timothée. Timothée, il vivait une pause sur ce qu'il est en train de se laisser aller. Mais je sais que Dieu a permis que ça arrive pour que ces lettres-là nous soient écrites, pour qu'on puisse avoir cet encouragement-là à la fin. 2 Timothée 1, 6. Paul, il dit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a dressé une sainte vocation. Une vocation, là, c'est un appel. Dieu nous a adressé un saint appel, une mission sur cette terre. On est en mission en tant que chrétien, là, à partir du moment que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as une vocation que tu es appelé. Tu as un appel pour une mission d'être une lumière dans ce monde, pas à cause de toi, même à cause du Saint-Esprit qui va agir à travers de toi. Puis là, il dit, ranime le don de Dieu que tu as reçu. Arrête d'être timide, c'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse que Dieu t'a donné. Puis souffre avec moi pour l'Évangile, n'aie pas peur de souffrir, fonce, donne-toi, même si ça fait mal des fois, continue, c'est ça que Paul est en train de dire. Réponds à la vocation que Dieu t'a appelée. Un autre passage dans Timothée, garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qu'il t'a confié. Ça, c'est dans 2 Timothée 1,14. Ça, c'est dans la version de la Bible du Sommeur. Garde intact par l'Esprit Saint le bien précieux qu'il t'a confié. C'est quoi ce bien précieux-là que l'Esprit Saint nous a confié? J'en parle depuis le début. Le dépôt, c'est quoi qu'il nous a confié comme dépôt, comme qu'il a donné comme un cash en partant, là? Tu mets un dépôt sur un objet que tu vas acheter, tu donnes un cash, un acompte, puis ça sera pas long, je m'en viens rechercher, je vais payer la différence. Mais ce dépôt-là, il a remis à ses serviteurs, à chacun de ses serviteurs, en arrivant, un dépôt. Il a appelé ça des talents, ou des dons, ou appelez ça comme vous voudrez. Il a déjà déposé dans le Saint-Esprit tout ce que je vous enseignais depuis plusieurs prêches là-dessus, sur des sujets différents qu'il a déposé à travers notre conversion. Il dit ce que tu as reçu en te convertissant, là, tes dons, l'appel, puis toutes les capacités, garde ça d'une manière intacte, les dons précieux. Il dit le bien précieux qu'il t'a confié. C'est comme si Dieu te faisait confiance, puis ce qu'il a déposé comme capacité ou comme don, il savait qu'il te faisait confiance, il te dépose ça, puis il dit, « M'assends à mon service. » On est tous appelés à cela. Puis c'est par le Saint-Esprit que vous allez pouvoir vivre ces dons-là, et de le garder intact, et de le faire multiplier. Restons en contact avec l'Esprit-Saint. Investissons-nous dans son œuvre. Je vais finir avec un dernier verset, 1 Corinthiens 7, 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Ça veut dire, dans ce passage-là, chacun. Je vous pointe encore chacun de vous autres, là. Vous pouvez tous dire, c'est à moi que ça parle. Je dois marcher selon la passe que le Seigneur m'a faite, selon l'appel que j'ai reçu de Dieu. On a tous reçu des appels, on a tous reçu des dons. Là, il dit, marche selon la part que le Seigneur t'a faite. Puis il nous en confiera davantage. Êtes-vous intéressé de vous impliquer davantage dans l'œuvre de Dieu? Voulez-vous voir la main de Dieu dans votre vie en train de multiplier le ou les dons que vous avez reçus, puis de voir que vous êtes en train de porter beaucoup de fruits pour son royaume? Croyez-vous que vous êtes tous des appelés, puis vous êtes déjà des appelés? Sentez-vous pas cheap d'être appelé? Sentez-vous pas, « Oh, moi, je suis pas digne d'être appelé. » Dieu, il te connaît, puis quand il t'a appelé, puis il s'est révélé à toi, c'est parce qu'il te faisait, il croit en toi, autrement dit, pas en ta capacité humaine, mais il te confie un bien, puis il veut que tu gardes ça précieusement par le Saint-Esprit, puis il veut que tu mettes ça à son service. Êtes-vous prête à avancer et dire, « Seigneur, » À un moment donné, dans Isaïe, ça dit, « Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? » Puis Isaïe s'est levé, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Êtes-vous des disponibles à travailler pour le Seigneur? Est-ce que vous voulez dire, « Oui, Seigneur, je vais être fidèle à tous les appels que tu feras dans ma vie. » Mais si vous l'êtes, là, j'ai fait cette réponse-là, c'est pas à moi que vous la faites, c'est à Dieu que vous la faites. Concentrez-vous sur le Seigneur, on va prendre un temps de prière. Puis dites au Seigneur que vous voulez répondre à son appel et mettre vos dons qu'il vous a donnés au service de son œuvre, puis que vous voulez vous impliquer, puis que le Seigneur va vous ouvrir des portes, va vous faire multiplier le fruit dans vos vies. Alléluia. Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés devant toi. Merci pour ta parole qui est vraie. Merci Seigneur pour nous faire comprendre ton appel, faire comprendre les dons que tu as mis là. Donne-nous une vision claire, Seigneur, de ce à quoi tu nous appelles. Donne-nous une vision claire, Seigneur, du plan que tu as préparé, des œuvres que tu as préparées d'avance pour moi afin que je les pratique. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je ne me laisse pas entraîner par la méchanceté des hommes, puis les ruses, puis leurs moyens de séduction, que je ne me laisse pas égarer par les mensonges de l'ennemi, du diable, puis les doutes qu'il peut me mettre, que je puisse garder mes yeux sur ta parole, demeurer en communion avec ton esprit dans la prière, et que je puisse être utilisé pour l'avancement de ton œuvre. Je mets ma vie entre tes mains, Seigneur. Je me confie en toi pour me diriger par ton Saint-Esprit. Prends tout, Seigneur, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Prends ma famille, prends mes biens, prends le temps qu'il me reste. On le met à ta disposition. On remet tout entre tes mains pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen.